Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Notre invité est un immense violoniste, l'un des plus grands au monde. Quand il était petit, son professeur a annoncé à ses parents, qui n'étaient pas musiciens, qu'il avait l'oreille absolue. Comprenez bien qu'il est capable, entre autres, de reconnaître une note, un son, comme ça, simplement, juste en l'écoutant. Un don, une passion, des répétitions quotidiennes et un entourage compréhensif. Tout cela lui a permis d'avoir une carrière hors norme. Plus de 100 concerts par an, direction d'orchestre, création de festivals, production d'albums. Aujourd'hui, il joue, il dirige, il programme, il fait vivre la musique classique à travers le monde. Il la fait partager, il la pense. Mon appréhension de la musique a changé, dit-il. J'ai moins de complexes, je suis plus à même d'ouvrir les vannes. Mais alors, est-il arrivé au sommet de son art ? A-t-il l'impression de pouvoir encore progresser ? Que lui faudrait-il pour être encore meilleur ? Quelle marche a-t-il encore envie de gravir ? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue Renaud Capuçon. Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Dôme Tournant, au Sénat. Est-ce qu'à votre niveau, on peut encore être l'élève de quelqu'un ? Est-ce qu'on a encore des petits accrocs à corriger ?
Toujours. D'abord, je pense que le jour où on pense qu'on est arrivé ou qu'on n'a plus rien à apprendre, il faut tout de suite ranger l'instrument et partir s'isoler quelque part. Je pense que le but même d'être un musicien, c'est d'abord d'être un artisan. Moi, je me considère comme un artisan avant d'être un artiste. Bien sûr que je suis artiste, mais on passe notre temps à chercher, à essayer d'être meilleur, à peaufiner un détail. Donc oui, j'apprends au contact de chefs d'orchestre, j'apprends énormément au contact d'autres collègues musiciens et aussi au contact des jeunes. Ce qui est assez paradoxal, le fait d'enseigner moi-même depuis 2014 à Lausanne me donne la possibilité, en apprenant aux jeunes musiciens, de réapprendre moi-même.
De vous-même.
Et donc c'est un cycle permanent, et ce qui fait qu'en fait, on se découvre des problèmes, pas des problèmes, mais des défauts, des choses au fur et à mesure qu'on est dans sa scène.
J'ai évoqué cette idée d'oreille absolue. Qu'est-ce que c'est précisément ? Je l'ai défini rapidement, mais c'est quelque chose qui vous a donné de l'avance par rapport aux autres ?
Je ne sais pas, j'ai des copains qui n'ont pas l'oreille absolue, qui sont des merveilleux musiciens. L'oreille absolue, c'est de reconnaître, si vous jouez une note au piano, on peut reconnaître un la d'un do. Peut-être que ça avantage un tout petit peu au début, mais j'avais 4 ans, ça m'a peut-être donné peut-être un peu plus d'énergie inconsciente, mais je ne crois pas que ça change la nature même du musicien.
Il faut, paraît-il, en tout cas pour bien jouer du violon, en jouer tous les jours. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous jouez encore tous les jours ? Combien d'heures par jour ? Est-ce que c'est toujours un plaisir de jouer ? Est-ce que aussi c'est parfois une corvée ?
Non, là j'ai la chance d'avoir eu toujours envie de jouer. Je crois que c'est la clé, c'est le moteur, c'est l'envie. Beaucoup travailler, oui. Tous les jours, oui. Entre 12 et 25 ans, j'ai travaillé 7 à 8 heures par jour. Donc oui, c'est beaucoup. Oui. Sans beaucoup de vacances, etc. Mais c'était une volonté personnelle. Aujourd'hui, y a bien des jours où je ne joue pas. Et c'est très nécessaire. Parce qu'il faut aussi... D'abord, ça décrasse. Ça permet de faire comme un détox. Et on se sent mieux... Là, j'ai donné un concert hier et 48 heures avant, j'étais dans mon festival. Je n'avais pas pu travailler vraiment mon violon de façon quotidienne.
Vous étiez rouillé ?
Au contraire, non. J'étais totalement... Si vous arrêtez 2 semaines, là, il faut repasser un petit peu de temps. Mais quand on s'arrête 2 ou 3 jours, il n'y a aucun problème. Et je dis même à mes élèves, quand ils partent en vacances l'été, prenez sur les 5 semaines, prenez de toute façon 2 semaines où vous ne touchez pas d'instrument. Parce que c'est une façon aussi de
revenir plus frais.
Exactement, et de l'aimer à nouveau au retour.
Le violon est votre passion, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un combat chez vous, c'est de démocratiser la musique classique, c'est vrai ?
Oui, alors c'est pas une chose... Le mot démocratiser, il peut être aussi pris comme une sorte de... J'aime pas le populisme, en fait. Donc, pas aller jusqu'au populisme en musique. Parce que la musique classique, c'est quelque chose d'universel, de beau, comme un tableau peut être partagé par tout le monde. Une œuvre de Brahms ou de Mozart peut être aimée par tout le monde. Donc, c'est simplement peut-être que les générations d'avant étaient un peu plus compassées, un peu plus, on était un peu plus dans un entre-soi. Mmh. Et j'aime l'idée que la musique est pour tout le monde. Donc, quand j'enregistre, comme je viens de faire un disque de musique de film, c'est aussi une façon, une main tendue en disant, je joue Brahms, Mozart, Schubert et de la musique d'aujourd'hui, mais je peux aussi jouer de la musique de film. Et ça permet parfois à un public de venir à l'Olympia, alors qu'il ne viendrait pas à la Philharmonie.
Voilà. Mais est-ce qu'on est... On peut tous être sensibles à la musique classique ou est-ce qu'il faut quand même une oreille un peu éduquée ? Vous parliez des tableaux. Finalement, quand on connaît un peu le contexte d'une œuvre, l'histoire d'un peintre, on est quand même beaucoup plus sensible à l'œuvre. Est-ce que c'est le cas aussi pour la musique classique ?
Oui,
ou est-ce
non.
qu'on est dans l'émotion pure ?
Je pense que la différence avec le tableau, et moi-même, j'ai parfois un complexe quand je vais au musée, parce que je me trouve dans des œuvres incroyables et j'ai l'impression que je ne comprends pas.
Ouais.
Donc je comprends très bien le spectateur qui va avoir cette peur-là au concert. La grande différence, c'est que la musique, dans la plupart des cas de gens qui viennent pour la première fois, vous emmène et vous procure une émotion qui est sensorielle. Mmh. Vous pouvez me dire, c'est la même chose avec un tableau. Ça me semble plus abstrait avec un tableau, si vous n'avez pas la connaissance intellectuelle. Mmh. En tout cas, moi je suis pour emmener des enfants, des gens de toute génération et toute catégorie sociale au concert.
Mais vous êtes d'accord que c'est quand même encore un public averti, éduqué, hautement éduqué qui...
Non, je crois que vraiment, la Philharmonie de Paris a montré, a prouvé l'inverse. Je me souviens des conversations enflammées au moment de la construction de la Philharmonie avec... tous les gens qui disaient, mais c'est, personne n'ira là-bas, c'est le bout du monde, c'est très loin, on ne peut pas se garer, j'en passe, et des meilleurs. Et finalement, les concerts sont pleins, c'est un succès formidable. On voit que le public...
Avec tous les publics ?
Le public est extrêmement varié. À Pleyel, qui était la salle avant pour le classique, la Philharmonie a remplacé Pleyel, les gens étaient plutôt mieux habillés. Mmh. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en costume-cravate, et la majeure partie des gens sont habillés de façon totalement décontractée. Il y a beaucoup de jeunes. Et c'est une réussite totale.
Parce que ce dont on parle me fait beaucoup penser à cette scène dans le film Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. Vous souriez, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Il y a cette scène notamment où François Cluzet parle musique classique, parle de sa passion, et Omar Sy, qui lui écoute plutôt du funk, est assez insensible à ce style de musique. Il lui dit, moi, Mozart, Brahms, c'est la musique des ascédiques, le répondeur des ascédiques. On a quand même deux univers qui ont du mal à se rejoindre.
Oui, alors c'est bien sûr un peu caricatural, même si ça m'arrive parfois, quelqu'un dit « Ah, mais vous avez joué un air, je le connais, parce que je l'ai vu. » Bon, donc, on ne peut pas échapper à ça, et ce n'est pas grave. Mais je pense que c'est pour cette raison aussi que ces gens-là n'osent pas aller au concert, parce qu'ils ont peur du jugement. Mmh. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'indulgence quand les gens applaudissent entre les mouvements. J'ai eu une situation un jour où le public connaisseur disait « chute » pendant que les gens applaudissaient pendant les mouvements.
D'accord.
Et c'est à un tel point que ça montait un peu l'atmosphère dans la salle. J'ai pris la parole à la fin en disant, vous savez, quand des applaudissements ont eu lieu comme ça de façon spontanée, moi je suis très heureux parce que ça veut dire qu'il y a un public qui est nouveau. Mmh. Et donc j'ai envie de dire bienvenue.
Un public nouveau qui ne connaît pas les règles.
Qui ne connaît pas les codes, mais c'est pas grave.
Ce sont des codes tacites. On applaudit
pas. Codes. Oui, le code tacite, c'est quand vous avez une œuvre de 4 mouvements, vous applaudissez pas entre les mouvements, vous applaudissez à la fin.
D'accord.
Mais si ce sont des gens qui ont été habitués à écouter des concerts de variété où le format c'est 3 minutes, ils applaudissent quand ça s'arrête. Mmh. Et c'est très logique aussi. Mmh. Alors si nous on réagit de façon...
Et puis c'est spontané.
Et c'est spontané.
Ouais, c'est beau.
Si on réagit nous de façon abrupte, on peut être sûr que ces gens ne reviendront plus jamais au concert. Ouais. Donc ça passe par d'innombrables petits signaux comme ça, qui font que quand même l'interprète est aussi responsable.
Parmi les disques que vous avez sortis, vous en avez parlé, il y a Cinéma, album hommage au grand écran, avec des arrangements sur des musiques de films comme La Liste de Schindler, Légende d'automne, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et au sujet de cet album, vous aviez dit une chose que j'ai trouvée intéressante. Il y a 20 ans, si l'on m'avait proposé d'enregistrer un disque de bande originale de film, j'aurais répondu « Ah non, que va-t-on penser de moi ?» J'étais extrêmement fermée. Ma bulle, je l'ai faite éclater au moment où j'ai rencontré ma femme, Laurence Ferrari. Vivre avec quelqu'un qui n'est pas musicien m'a ouvert. Ça veut dire qu'au départ, c'est peut-être un monde quand même un peu fermé, ou ça l'était, ça ne l'est plus.
Je pense que, j'ai employé le mot de bulle, parce que quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a dit, mais en fait, ça fait 20 ans que tu vis dans une bulle, parce que j'avais beau être connecté avec l'extérieur, bien sûr, et avec l'actualité, j'ai toujours été passionné de politique, par exemple, mais comme je fréquentais à 99% des musiciens, j'étais dans une bulle, mais c'est comme si vous êtes médecin et que vous ne voyez que des médecins, il y a un moment donné où vous êtes dans une sorte de bulle. Et le fait de ne connaître que des gens qui ne faisaient qu'écouter de la musique classique, j'étais effectivement un peu hermétique à tout le reste. Et j'ai appris à m'ouvrir beaucoup plus, et j'ai beaucoup reçu justement des gens de l'extérieur, j'ai beaucoup compris comment ils fonctionnaient. Et oui, je pense que la musique de film peut être un moyen merveilleux pour tendre la main à des gens qui ne connaissent pas forcément la musique classique.
De quel film auriez-vous aimé composer la musique ?
Ah, peut-être Cinéma Paradiso, parce que la musique de Morricone est absolument incroyable. Ou par exemple la musique du Mépris de Delerue, ou ces musiques qui vous emmènent instantanément dans un univers différent.
Vous êtes un peu à part dans cet univers. Le journal Le Monde vous a qualifié un jour de véritable entrepreneur amateur de politique et de mondanité. Il a un agenda de ministre, une discipline d'athlète de haut niveau, un carnet d'adresses rempli de noms de grands patrons. Qui est-il dans ce carnet d'adresses ? Est-ce que vous avez des grands patrons ?
C'est un peu caricatural, parce que de dire que j'ai une vie de mondanité, ça c'est vraiment l'opposé de ce que je suis. Ouais. Je me suis défini tout de suite dans cet entretien comme un artisan et un artiste. Il se trouve que par mon métier, je rencontre des gens qui sont des gens très connus ou des gens très importants, comme des présidents ou des patrons d'entreprise. Ouais. Mais le but n'est pas de faire des mondanités, le but est de faire toujours fonctionner la musique. C'est-à-dire que si je rencontre un patron d'entreprise, mon idée c'est comment faire pour qu'il s'intéresse à la musique, pour créer des liens.
Pour qu'au final il investisse, parce qu'on a besoin de ces mécènes.
Oui, mais je pense que
c'est
une sensibilité, c'est essayer de faire en sorte que partout dans notre monde, la société d'aujourd'hui, là je vous parlais tout à l'heure du public, mais ça passe aussi par des investisseurs, ça passe aussi par des mécènes, ça passe par des politiques. Mmh. Et mon rôle, finalement, si vous prenez quelqu'un comme Rostropovitch, ou comme Barenboim, ou comme Menuhin, ce sont pour moi des exemples, des phares comme ça qui éclairent, qui illuminent et qui rassurent. Et qui ont joué ce rôle-là. Barenboim est allé parler à Angela Merkel, il a parlé à beaucoup de politiques, il a rencontré le pape. À chaque fois, c'était pas pour dire j'ai rencontré telle personne, mais c'était pour s'investir. Et chaque fois que j'ai l'occasion ou la possibilité de rencontrer des gens de cette notoriété ou de cette importance, c'est toujours pour que la musique puisse grandir. Et je pense que c'est important d'avoir des gens comme nous.
Alors vous êtes né un 27 janvier comme Mozart, on vous le dit souvent.
Oui, sauf que je réponds toujours que lui n'est pas au courant, donc ça ne change pas grand-chose.
En tout cas, c'est comme si votre destin de musicien était écrit, et pourtant non, aucun musicien professionnel dans votre famille. Votre père qui travaille dans l'administration des douanes et votre mère qui s'occupe de ses trois enfants apprennent à aimer la musique classique en allant au Festival des Arcs, pas loin de chez vous, et en regardant le grand échiquier à la télévision. Ils vous inscrivent, vous, votre grande sœur et votre petit frère, à des cours de musique. Il se trouve que votre frère Gauthier et vous allez en faire votre métier. Gauthier Capuçon est un très grand violoncelliste, vous un très grand violoniste. Votre sœur a préféré devenir orthophoniste, autre iste. Et votre carrière dans la musique tient à peu de choses, finalement, à ce Festival des Arcs.
Oui, ça tient à peu de choses. Ça tient au fait que, à peu de choses et énormément de choses, dans le sens où mes parents ont eu cette envie, surtout ma mère, de nous faire découvrir la musique. D'abord ma sœur, puis moi, et puis mon frère ensuite. Ils ont découvert eux-mêmes la musique dans ce Festival des Arcs, qui était, par géographie, pas loin de chez eux. Mmh. C'était des concerts gratuits. Et puis, il y avait Chancel, Jacques Chancel, qui est devenu ensuite mon meilleur ami, un de mes meilleurs amis, à qui j'ai passé des heures à parler jusqu'à son départ. Ils découvrent le grand échiquier de Chancel, et je pense que l'association des deux, ils vivent dans une petite ville de province à Chambéry, où il y a un petit orchestre, où il y a des concerts, ils nous emmènent. Et moi, je tombe vraiment dans la marmite. C'est-à-dire que, immédiatement, la musique devient à la fois un refuge, une façon de m'exprimer. Je pense que si je fais un peu d'introspection, sans faire une psychanalyse à trois sous, j'étais un gamin assez doué, mais pas plus qu'un autre, mais extrêmement concentré. D'accord. Maintenant que je vois des jeunes, des enfants, et que j'ai moi-même un fils, ce que j'avais peut-être de différent, c'était la capacité de focus, de concentration. D'accord. Qui m'a permis d'aller plus vite, et puis je savais où j'allais. Et donc, oui, la chance d'avoir des parents qui soutiennent, qui comprennent cette passion, qui ne m'obligent pas à faire des maths ou maths sup ou je ne sais quoi, ou de faire d'autres études parce qu'il faut faire, il ne faut pas être musicien. D'accord. Donc, qui respectent le fait qu'à 8 ans, je décide d'être violoniste, et ils me disent « Ok ». Banco.
Oui, parce que c'est effectivement à l'âge de 7-8 ans que vous dites à tout le monde que vous voulez être violoniste, alors qu'au départ, vous vouliez être skieur.
Oui, je voulais être skieur l'hiver et violoniste l'été, ce qui est un peu complexe.
C'est pas mal quand même. Et dès la quatrième, vous partez à Paris, vous êtes admis au conservatoire, vous êtes le plus jeune de votre classe, le plus petit de taille. J'ai lu qu'on vous appelait Calimero aussi, ça m'a intrigué. Je me suis demandé, même si vous n'étiez pas moqué, alors on parle aujourd'hui de harcèlement, c'était... Alors, cet ordre-là ?
Ouais, c'est drôle, si vous me posez cette question. On était, pour certains, clairement dans le harcèlement. Pas pour Calimero, ça, c'était vraiment des potes qui m'appelaient comme ça, et c'était plutôt sympathique.
D'accord.
C'est ceux qui me protégeaient, d'ailleurs.
Qui vous protégeaient ? De qui ?
Bah, vous savez, au conservatoire, j'avais 14 ans. La plupart en avaient 18, 19. J'étais vraiment le plus jeune cette année-là. Et c'est facile de se moquer d'un gamin de 14 ans. J'étais très, à la fois très en avance sur le côté violon. Et j'avais 14 ans, donc j'étais un gamin qui venait de la province. Mmh. Et oui, si c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et si je me refais le film, je revois une ou deux situations de harcèlement dans le sens de moquerie gratuite, juste sur ma taille, mon âge et le fait que j'étais sans armes pour me défendre. Et des humiliations que j'ai pas oubliées d'ailleurs.
Et quand vous entendez aujourd'hui tout ce qui se dit et ce qui se fait autour du harcèlement, ça vous touche ? Vous avez été touché par les discours que vous avez pu entendre ?
Oui, je pense que c'est essentiel parce que c'est toujours la même chose. Ça peut partir d'une blague, d'une chose simple, d'une chose qui ne semble rien pour ceux qui sont harceleurs, sauf si dans des cas extrêmement vraiment graves. Ouais. Mais très souvent, finalement, on peut être même dans un groupe. Et être soi-même harceleur sans s'en rendre compte. Donc je pense que c'est très important de que les choses soient dites, et dans une époque où je pense qu'on peut plus dire les choses et on a une capacité maintenant à voir les problèmes avec un peu plus de recul qu'à l'époque. Mmh. Où finalement, quelqu'un qui serait allé se plaindre d'une chose comme ça, on se serait moqué de lui.
Voilà. Oui. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon ou au jeune ado qui va se lancer, qui s'apprête à se lancer dans la vie ?
Je le fais avec mes élèves, je le fais avec des jeunes que je rencontre. Je leur dis surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Soyez extrêmement vigilants sur ce qui brille. Le problème d'un musicien, c'est un métier de spectacle, de concert. Et vous avez autant de flatteurs et de gens qui vous disent toute la journée que vous êtes géniaux, que enfin vous en avez beaucoup plus que de gens qui vous remettent dans le droit chemin.
D'accord.
Donc de savoir
bien s'entourer
et surtout ne pas choisir la facilité, pas choisir ce qui brille forcément, analyser les choses et moi mon rôle dans cette petite société que j'ai créée qui s'appelle Beaussoir Productions, c'est justement de conseiller les jeunes et de leur éviter parfois des chemins de traverse qui pourraient les amener vraiment à des catas. Ça arrive parfois que des jeunes se perdent complètement parce qu'ils ont un entourage qui passe toute la journée à leur dire qu'ils sont extraordinaires alors qu'ils n'ont encore rien fait. Mmh. Moi, j'ai une phrase très simple pour ces jeunes qui parfois ont la tête qui gonfle un peu trop vite. Et je leur dis, tu sais, en fait, c'est très simple. Hein, on n'est que des interprètes. Donc, le jour où on va... Donc, je m'adressais à un jeune il n'y a pas longtemps. Je dis, le jour où on disparaît, en fait, toi comme moi, au mieux, on a deux lignes dans un journal, local, national, si vraiment on est un peu plus connu. La maison de disques, si elle existe encore au moment où on meurt, elle fait une petite compile. Mmh. Et basta cosy, c'est fini. Et on disparaît, mais instantanément. Mmh. Ça remet quand même les choses... Donc, ça les calme un peu. Moi, j'ai réalisé ça très tôt. Et ça me donne un regard comme ça sur les choses assez simple. Et encore une fois, quand on se considère comme artisan, au service des musiciens, l'humilité, elle est essentielle.
Pourtant, il vous est arrivé des choses incroyables. À 20 ans, c'est une anecdote que j'ai trouvée extraordinaire. Vous êtes auditionné par Daniel Barenboim, vous en parliez tout à l'heure, pianiste et chef d'orchestre israélo-argentin. Pendant l'audition, il vous arrête et vous demande de rejouer. Et il vous dit ceci. « C'était tellement bien la première fois que je voulais savoir si c'était le fait du hasard. Ma secrétaire vous rappelle demain pour aller à Chicago. »
Oui, c'était drôle. J'en ai reparlé il n'y a pas longtemps. On se parle très régulièrement avec Daniel, qui est un ami. Et je lui ai rappelé cette anecdote. Et il a explosé de rire en disant « Oui, c'est bien mon genre. » Et moi, j'étais tétanisé parce que j'avais 20 ans, 19 ans, à Berlin, dans une salle de l'opéra. Je joue pour Daniel Barenboim. Il arrive entre deux répétitions, super pressé, etc. Mmh. Il me dit « Je vous écoute. » Je joue le concerto de Beethoven et il se passe cette chose-là. Je joue deux pages. Il me dit merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est foutu, quoi.
Oui, c'est que...
Et je pense qu'il voulait tester à la fois mes nerfs, ma résistance physique, de voir ce que j'avais dans le ventre. Et voilà. Et on est devenus des amis depuis. Mais c'est vrai que c'est un. Et comme tout métier.
Non,
je
mais
dirais...
là, on se dit qu'on est quand même à part, non? Qu'on a un talent.
Non. Je pense que le jour où on se dit qu'on est à part, c'est là où tout commence à foirer. Non, vraiment, je crois...
Ah, mais je vous crois, vous avez l'air...
Je crois que... bien sûr que c'est grisant de rencontrer des gens extrêmement connus, d'avoir cette vie, mais ce n'est pas les paillettes, c'est le cœur du réacteur, c'est la musique. Et donc, de rencontrer Barenboim ou Abado ou Giulini ou Martha Argerich, ce sont des gens qui servent la musique. Et à leur contact, vous apprenez à être encore plus humble parce qu'ils sont tellement hallucinants que vous vous sentez tout petit.
En préparant cette émission, on s'est aperçu que le classique réunissait souvent des fratries. C'est même assez troublant. On a quelques exemples. Camille et Julie Berthollet, violon et violoncelle. Zaya Ziwani et sa sœur Fetouma, chef d'orchestre et violoncelliste. Katia et Marielle Labec, pianistes toutes les deux. Votre frère et vous, c'est étonnant quand vous l'expliquez. Vous y avez déjà réfléchi.
Il y a d'innombrables autres exemples,
c'est
bien
incroyable.
Sûr. C'est assez étonnant. Et moi, j'aime cet exemple des sœurs Labec parce qu'on les connaît depuis plus de 25 ans maintenant, sont des amis et vraiment proches, et j'admire leur capacité à avoir comme ça traversé les années en étant toujours en train d'apprendre, de chercher. Elles commandent des œuvres, elles travaillent des heures et des heures. Pour moi, c'est un exemple incroyable. Et Gauthier et moi, on a beaucoup joué ensemble, on a arrêté d'un coup, et donc forcément les gens pensaient qu'on se faisait la gueule, ce qui n'était pas le cas. Simplement, on a arrêté d'un coup de jouer ensemble parce qu'on ne voulait pas être assimilés au fait d'être frères. La grande différence avec Katia et Marielle, c'est que, Labec, c'est que nous, on est deux personnalités qui jouons des carrières séparées. Katia et Marielle ne jouent quasiment qu'ensemble. Et on ne voulait pas avoir d'étiquette de frères uniquement. Bien sûr qu'on est frères et qu'on rejouera ensemble.
Mais vous arrivez à vous expliquer que souvent les fratries jouent bien et ont des carrières incroyables.
Je pense que c'est inhérent au fait d'abord d'un phénomène d'imitation, d'envie de la fratrie de jouer ensemble. Peut-être qu'au début c'est simplement les parents qui disent toi tu joues du violon, toi tu joues du violoncelle, je ne sais quoi, et puis finalement ça se transforme en une joie, un plaisir de jouer ensemble, parce que c'est quand même une des choses les plus géniales de la vie, de jouer avec son frère.
J'ai un document à vous proposer, alors vous inquiétez pas, je vais vous le lire et je vais préciser pour nos téléspectateurs, pour ceux qui nous écoutent. C'est un document qui nous a été transmis par nos partenaires, les Archives Nationales. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Il s'agit du testament de Jean-Auguste Dominique Ingres, immense peintre du 19e siècle, mais aussi enseignant, sénateur et violoniste. Il a même été deuxième violon à l'orchestre du Capitole de Toulouse, et de ce loisir est née l'expression « violon d'Ingres ». Dans ce testament que vous avez là sous les yeux, il lègue son violon à sa ville natale.
Incroyable.
Est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez de vos violons ? Est-ce que vous les lèguerez
Le violon que j'ai toujours pas fini de payer, il faudrait déjà que j'arrive à terminer de le payer. Ça va prendre encore un certain nombre d'années. Et le jour où il sera enfin à moi, j'espère que je serai pas trop vieux. Mais je me suis pas encore vraiment posé la question. Ouais. Mais je pense que je le lèguerai à ma famille. Sauf si je dois le vendre pour X raisons. Et dans ce cas-là, se posera évidemment la question de le vendre. Moi, je préférais mille fois le vendre à un musicien qu'à un investisseur ou qu'à un... Voilà.
Donc, qu'est-ce qui représente le violon pour vous ? C'est un partenaire ? C'est un doudou ? Qu'est-ce que c'est ?
C'est un partenaire, oui, mais c'est ma façon de m'exprimer. Même si aujourd'hui, je dirige aussi, je n'ai pas mon violon et j'arrive à m'exprimer aussi.
Mais est-ce qu'on le personnifie ? Est-ce qu'on en fait presque un être à part entière ? Est-ce qu'on dort à côté ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que...
Il n'est pas très loin, il n'est pas très loin de moi, pour des raisons de sécurité et des raisons aussi un peu... Oui, vous avez dit doudou, c'est drôle, je n'ai jamais pensé, mais c'est un peu ça. On est rassuré. Ouais. Au-delà de ça, je m'exprime avec cet instrument depuis plus de 20 ans maintenant, et depuis, avec le violon depuis 44 ans, parce que j'ai commencé à 4 ans. Ouais. Ça fait quand même un...
Vous provenez années. Sans violon, là vous êtes venu sans,
bien
par
sûr.
Exemple. Ouais, vous arrivez à vous en séparer.
Je suis assez normal.
Il se dit que lors d'un déjeuner en présence de Jacques Chirac, vous auriez demandé à l'ancien président de bien vouloir se laver les mains avant de toucher votre violon. Vous auriez même jeté un froid que Chirac a lui-même brisé en éclatant de rire et en allant effectivement se laver les mains avant de toucher le violon.
C'est exactement un mythe, ça. Non, c'est absolument vrai. C'était un déjeuner en Savoie avec des skieurs, des champions de ski et un violoniste. Il voulait voir le violon, le président. Et donc, je prends le violon. Il tend ses mains et comme on venait de manger du fromage, je lui ai demandé simplement de se... Donc il s'est essuyé les mains et c'est vrai que ça a jeté un froid absolument incroyable. Je pense que tous les skieurs ont pensé que j'étais d'une arrogance totale, mais je l'ai fait avec beaucoup de respect. Et Chirac a été génial parce que il a répondu, mais vous n'imaginez pas, c'est un instrument extrêmement précieux. Et mon ami Étienne Batelot, etc. Et finalement, ça a détendu totalement l'atmosphère.
Il vous a complètement compris, en fait. Il a compris votre rapport à ce violon. J'ai des photos à vous proposer. Ça fait partie des rituels de cette émission. Voici la première, c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous partagez votre vie avec elle, la journaliste Laurence Ferrari. Est-ce que c'est vrai que vous ne l'aviez jamais vue à l'écran lorsque vous
jamais.
La rencontrez ? Vous ne la connaissiez pas ?
Pour vous dire vraiment les choses comme elles se sont passées, j'ai été invité à un dîner chez Michel Barnier qui était ministre de l'Agriculture. où elle était aussi invitée. Et j'avais décidé de ne pas aller à ce déjeuner, à ce dîner, parce que j'étais vraiment...
Fatigué.
Super fatigué. Oui. Et donc, j'ai demandé la liste des invités et j'ai dû googler son nom. J'ai vu sa photo et j'ai confirmé le dîner. Voilà. C'est exactement comme ça que ça s'est passé.
Donc, vous étiez quand même vraiment dans une bulle. Hein.
J'étais vraiment dans une bulle. On est d'accord.
Je parlais d'entourage compréhensif. Elle doit être compréhensive pour le violon qu'elle entend tous
mais
les jours.
Mais moi aussi, je suis compréhensif. Parce que vivre avec une journaliste.
Oui, mais le son du violon tous les jours, ça ne doit pas être...
Alors d'abord, elle a la chance que je voyage beaucoup. Donc, je ne suis pas tous les jours là. C'est vrai que quand je travaille, comme au mois de décembre, le concerto de Schoenberg, 7 heures par jour, ouais. Même les voisins qui adorent quand je joue se sont demandé quand ça allait s'arrêter. Bah, j'avoue. Ouais. Et je m'excuse auprès d'eux. Mais de façon générale, je travaille avec la sourdine en plomb, donc on entend très peu. Et je joue quand même plus des choses audibles qu'inaudibles.
Bon, ça va alors. Une dernière photo, il s'agit du musicien Rostropovitch dont vous parliez tout à l'heure, devant le mur de Berlin avec son violoncelle, le 11 novembre 1989, pour célébrer à sa façon la chute du mur de Berlin, improvisant un récital. Dans ces périodes historiques troublées, est-ce que vous diriez que la musique classique et peut-être le violon peut jouer un rôle politique d'apaisement?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que la musique... le violon ou un autre instrument, s'il est porté... moi, je suis artiste pour la paix au sein de l'UNESCO et je suis très heureux et très fier de ce titre qui est une chose qui me pousse à utiliser l'art pour ça. Mes modèles, comme je vous l'ai dit, c'était Rostropovitch, c'est Menuhin, c'est Barenboim. Aujourd'hui, la musique peut être un moyen absolument incroyable puisque sans mots et sans nationalité... on peut avoir des concerts aujourd'hui où un Ukrainien peut jouer à côté d'un Russe, à côté d'un Israélien, à côté d'un Palestinien.
Vous auriez envie de jouer quelque part là en ce moment pour symboliser la paix justement avec votre instrument?
Ben, j'aimerais jouer dans... S'il était possible de me téléporter dans toutes les zones de guerre, aujourd'hui je le ferais. C'est, vous imaginez, beaucoup plus complexe que l'on veut bien le penser.
Bien sûr.
Je suis très souvent... j'ai des espèces d'élan. Et j'ai la chance d'avoir une femme qui est journaliste et donc qui peut me conseiller sur ces choses-là. Et la plupart du temps, elle me dit, c'est une formidable intention, mais tu peux pas faire ça. Et je pense qu'il faut aussi se méfier de pas être comme tout d'un coup, qui va dans chaque pays, etc. Donc, il faut avoir beaucoup
de... La juste place.
La juste place. Ouais. Et de pas dénaturer non plus cette mission, d'une certaine façon, d'ambassadeur de la musique auprès de ces populations. Mais je pense vraiment qu'on peut, grâce à la musique, faire passer d'innombrables messages et que les politiques devraient utiliser beaucoup plus comme arme diplomatique la musique, de façon générale.
L'appel est lancé. Une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes, Renaud Capuçon. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise-vous, peut-être?
Non, je pense qu'elles me parlent toutes. La justice, l'éloquence. Redites-moi les deux.
Sagesse, prudence.
Sagesse, prudence, ça c'est vraiment ce que j'essaie de faire passer aux jeunes.
Ah oui.
Je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante. En tout cas, si on veut durer sur le long terme. Si on veut simplement être une star et durer 3 ans, alors ils n'ont pas besoin de mes conseils. Et donc prudence, sagesse et éloquence, je pense qu'en musique... L'éloquence fait partie de la rhétorique.
Merci Renaud Capuçon d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci d'avoir partagé ce beau moment et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Et je rappelle que vous êtes à l'Olympia le 10 mars prochain. Merci Renaud Capuçon.
À
très bientôt.